Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec Michel Bourges-Ponoury pour l'émission Bienvenue en Europe. Alors,
bonjour.
Nous disons Bienvenue en Europe, même si les nouvelles ne sont pas toujours merveilleuses. Alors, nous sommes toujours sous la présidence tournante de la Suède. Et c'est intéressant, ça, parce que finalement, la Suède, antérieurement, était un peu réticente vis-à-vis de l'Europe. Et là, elle est vraiment devenue européenne.
Ben, la Suède a demandé à intégrer l'OTAN avec la Finlande. On sait d'ailleurs qu'il y a des difficultés à l'heure actuelle parce que c'est la Turquie qui a bloqué au sein de l'OTAN pour l'instant cette admission, puisqu'il faut l'unanimité des membres pour en accepter de nouveau. Et là, il y a une grande. On attend les élections en Turquie au mois d'avril-mai. On verra qu'est-ce que ça
va donner. Si les élections ont lieu, puisqu'il y a eu le tremblement de terre qui risque de modifier les élections, les échéances électorales.
On verra, parce que M. Erdogan, pour l'instant, est en train, sur le plan de son opinion, de perdre un peu
de ses avantages. Devant son incompétence concernant la construction de l'Est de la Turquie.
Mais on aurait beaucoup de choses à dire sur la Turquie, mais ce n'est pas le sujet essentiel, mais en tout cas, ce mois-ci, mais en ce qui concerne, enfin, sauf ce tremblement de terre épouvantable, évidemment, là, on va peut-être y revenir, vous voulez qu'on
l'aborde
tout
de suite ? On peut en parler tout de suite, puisque de toute façon, là, c'est quand même intéressant, c'est de voir comment tous les pays européens, mais aussi d'autres, se sont mobilisés pour l'aide humanitaire. Et puis, un des problèmes, c'est que quand même, l'aide humanitaire, lorsqu'elle doit intervenir pour la Syrie, elle arrive beaucoup plus mal.
Oui. Ben là, on sait quelle est la situation de la Syrie. C'est un peu spécial. En plus, la zone dans laquelle le tremblement de terre est intervenu est une zone hors contrôle du gouvernement actuel syrien. Et qui est. Alors, il y a des conflits entre, d'une part, la Turquie et cette zone-là, parce qu'il y a une partie
de la population qui n'obéit pas à monsieur.
Ni Erdogan, ni l'autre. Donc, il y a des problèmes indirects en ce qui concerne les populations locales.
Elle crève, là.
Et alors, là, c'est épouvantable ce qui se passe. Alors, au niveau européen, au moins. Tout de suite, il y a des équipes qui sont sur place, qui vont être complétées. Il y a une aide également financière qui est accordée pour essayer d'aider autant que faire se peut. Alors évidemment,
Mais si les couloirs pour accéder aux zones sont bloqués par le gouvernement central,
l'Europe a insisté en disant il faut ouvrir ces couloirs le plus vite possible et puis chaque jour compte. Maintenant, malheureusement, on sait que
on trouvera des cadavres.
On va plus trouver des survivants. Ce serait alors là des véritables miracles insensés. Mais en tout cas, au moins, il faut essayer à aider ces pauvres, ces malheureuses populations, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre de la frontière. Entre la Turquie et la Syrie, pour qu'on leur vienne en aide pour survivre. Parce qu'en plus, il y a des froids terribles, ils n'ont plus d'énergie, il n'y a même plus d'eau, il n'y a plus rien.
C'est la diplomatie du tremblement de terre qui rétablit la solidarité entre les peuples. Mais pour les gouvernements, c'est
jusqu'à une certaine limite, parce que d'après ce qu'on a compris des informations, c'est que M. Bachar el-Assad, lui, au contraire, s'en sert pour éliminer justement les populations en question. Il est très content
que ce soit le tremblement de terre qui élimine les gens qui sont là-bas.
Et donc, il met en avant son aide qui est tout à fait limitée pour cette partie-là du territoire. Et quant à M. Erdogan, il a tardé aussi à intervenir pour la partie qui est son propre territoire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas qui sont vraiment à mettre pas du tout en avant sur le plan de l'humanité, de l'humanisme. C'est vraiment de l'entraide entre les peuples, oui, mais ça montre qu'il y a quand même des difficultés qui sont politiques. Et c'est là où est le drame. D'abord, il faut voir la difficulté humaine et après, les questions politiques. Malheureusement, les deux se mêlent dans cette affaire-là. Enfin, bon. Au moins, l'Europe arrive tout de suite, comme elle le peut. Sur le plan Vous disiez tout à l'heure, indépendamment de ça, c'est la présidence suédoise qui, depuis le 1er janvier, préside les réunions des ministres européens, conseil des ministres. Parmi les sujets qui sont poussés par la présidence, dans les priorités de cette présidence, donc c'est une présidence qui a commencé le 1er janvier, qui se terminera le 30 juin, parmi ces priorités, il y a effectivement l'aide à l'Ukraine, l'aide dans tout le contexte géopolitique actuel, au moins la Suède milite pour un renforcement de l'Europe. Ça, c'est très bien. Mais parallèlement aussi, on en touchera peut-être un mot ou maintenant ou tout à l'heure, il faut savoir que le gouvernement actuel est lié en quelque sorte avec l'extrême droite dans ce pays.
Oui, donc pour la
Et
pression des migrations internationales, ça pose quand
voilà.
même de redoutables problèmes.
Et justement, c'est un des sujets qui avait été demandé par les présidences suédoises de traiter au niveau du Conseil européen qui s'est tenu le 9 février, 9 et 10 février dernier.
Avec la
Donc c'est très récent.
tentation de laisser aux pays qui sont en bordure de l'Europe le soin de gérer les affaires. Mais les pays qui sont en bordure de l'Europe trouvent que, à condition de payer beaucoup, et puis c'est une politique extrêmement violente vis-à-vis des populations.
Alors si on aborde tout de suite ce sujet qui a été traité au Conseil européen, tout a été mis sur la table. On sait que le sujet traîne depuis des années. La Commission européenne avait mis sur la table un projet qui était un peu à cheval pour essayer d'équilibrer en fait les pros, pas les, on peut pas dire les pro-migrants et les anti-migrants, mais c'est les pays qui sont en première ligne. Évidemment, c'est eux qui subissent
Mais qui subissent le choc
le choc
de l'arrivée
migratoire
des
de
migrants.
l'arrivée, et ils doivent s'en
Oui.
occuper. Et là, au moins au niveau du Conseil européen, a été décidé de leur venir en aide financièrement. Donc il y a des mesures
Une
qui,
certaine
certaines
solidarité qui se joue.
solidarités qui doivent jouer.
Madame Meloni
Là,
a tapé fort là-dessus.
oui.
Peut-être elle a eu raison.
Mais là, pour ça. En revanche, en ce qui concerne. Alors, ces pays-là ont demandé, et notamment du côté des Balkans. Ça, c'est la Bulgarie en particulier, qui a demandé à ce que l'on crée un mur, carrément un mur, pour empêcher l'arrivée des migrants par son territoire. La Hongrie, on sait également, elle veut la même chose. Et donc, il y en a plusieurs qui vont dans ce sens-là en disant c'est l'Europe qui doit nous payer cette infrastructure pour bloquer nos frontières. Et là, ça, il n'y a pas eu d'accord au niveau du Conseil européen, mais il y a eu un dialogue pour dire, bon, on peut, parce que ça ne va pas régler le problème, c'est pas parce que vous allez construire un mur que le problème ne se posera pas. Parce que le problème, c'est évidemment l'immigration illégale. Et il faut reconnaître que l'année 2022 qui vient de s'achever a connu la plus forte augmentation migratoire, plus de 300 000 personnes, par rapport au top qui avait été atteint en 2015. Donc là, il y a eu un choc. Et évidemment, on peut comprendre pourquoi il y a ces courants migratoires. Mais évidemment, dans certains pays, et en particulier, on parlait de la présidence suédoise, il y a une très forte proportion, on n'imagine pas, dans les pays du Nord, où il y a des migrants. Et comme, évidemment, quand ils débarquent, ce n'est pas exactement la même culture, surtout les cultures nordiques sont. Ce n'est pas comme les cultures méditerranéennes ou à cheval. L'Europe est constituée de plusieurs courants culturels au départ, mais qui se rejoignent évidemment au sein de l'Union européenne. Et ceux qui viennent ou d'Afrique ou d'ailleurs, du Moyen-Orient, il y a des cultures au départ qui sont quand même assez différentes. Et donc, il y a une nécessité d'intégration. Or, il y a un quart de la population de la Suède qui n'est pas suédoise. On n'imagine pas ça. Donc, la manière de traiter ces problèmes-là sont très.
Des pays si peu peuplés et si riches,
Oui,
véritablement, jouent un
ont
rôle
besoin,
attractif.
bien
Mais en même
sûr,
temps,
et
ils
en
ont
même
besoin de
temps,
main-d'œuvre.
ils ont besoin de main-d'œuvre. Mais sachant ceci, une partie de la population se dit, ah, mais ces gens-là sont pas comme nous, donc on veut être suédois et pas. Bon. Alors, c'est un courant dans toutes les populations à l'heure actuelle, ces courants migratoires. font qu'il y a une augmentation des courants nationalistes
dans
tous les pays d'Europe. Et que ce soit en France, que ce soit en Italie, on l'a vu avec l'arrivée au pouvoir
de Madame Meloni,
et en Suède, il y a un accord avec le gouvernement actuel qui dépend en fait des votes de l'extrême droite au Parlement suédois. Et donc, ils ont demandé à ce que, justement, cette affaire-là soit mise au sommet européen du mois de février.
Mais il y a des choses contradictoires, parce que, par exemple, l'Allemagne a besoin aussi de main-d'œuvre, et notamment de main-d'œuvre turque. Et puis, en France, on voit que la diminution de l'équilibre démographique dépend, entre autres, de l'apport étranger.
Tout à fait. Non, mais ça, il est clair que... Donc, ce qui a été... Bon, il y a eu toute une série de mesures, quand même, qui ont été prises. Il y a l'intention, quand même, qu'il y ait une sorte de solidarité. Il va y avoir... Mais l'affaire n'est pas réglée. Mais disons que il va y avoir, sans doute, comme toujours l'affaire se passe au niveau européen, un compromis entre les deux. Et on va voir ça à la suite. Il y a des mesures qui ont été prises, il y en a d'autres qui vont l'être. On verra dans les mois qui viennent comment tout ceci se met en place.
Oui, en tout cas, ça n'est pas très simple. Et puis on peut se poser la question, puisque nous sommes quand même appelés à être frères, lorsqu'on va chercher le coltan ou bien les métaux au Congo, disons, les choses comme elles sont. C'est vrai que la Chine peut aussi produire un certain nombre de produits, de cobalt notamment, mais est-ce qu'on peut accepter de faire circuler les marchandises, de laisser les gens travailler de façon épouvantable dans ces pays pauvres, et puis en même temps, accepter leurs richesses, mais pas accepter les populations, et en même temps dépouiller ces pays de ces richesses. Donc là, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est contradictoire, en tout cas qui ne satisfait pas l'éthique chrétienne, semble-t-il.
Oui. Non, mais vous avez raison, mais c'est simplement de le souligner. Il y a des discussions qui vont être entreprises précisément à la suite de ces débats au niveau des chefs d'État et de gouvernement européens, précisément avec les accords d'association des pays avec lesquels on échange sur le plan économique et à partir desquels des courants migratoires ont l'origine. En ce qui concerne
Pour les migrations,
l'actualité...
Il y a l'actualité économique, les finances.
Il y a ce qu'il faudrait... C'est quand même... Enfin, de rappeler... On est quand même dans ce contexte de la guerre en Ukraine. Et tout ceci se tient. On ne peut pas prendre un sujet sans aborder l'autre. C'est là la difficulté actuelle. Jamais l'Europe s'est trouvée, depuis son origine, dans une telle situation. Et le monde entier aussi, puisque, on ne va pas répéter encore une fois, mais enfin quand même, on n'a jamais vu un conflit. On croyait que ça n'arriverait plus jamais qu'il puisse y avoir sur le territoire européen une véritable guerre qui réapparaît. Donc l'invasion russe en Ukraine est absolument horrible, contraire à tous les traités internationaux que la Russie a signés, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Mais tout ceci joue dans nos politiques actuelles.
Ça veut dire que c'est la politique du plus fort et c'est un peu ennuyeux parce que les démocraties ne sont pas habituées à cela.
Mais surtout que sur le plan militaire, en particulier, des dépenses militaires n'ont pas été à la hauteur d'une invasion. Jamais on a imaginé ça. Et l'une des difficultés à l'heure actuelle, c'est la solidarité européenne vis-à-vis de l'Ukraine. Elle est là. Elle a été confirmée malgré certaines difficultés. Mais par exemple, quand on veut donner des armes, on est obligé de donner dans ses propres stocks. Et ses propres stocks sont insuffisants par rapport aux dépenses ahurissantes à l'heure actuelle au niveau ukrainien, par exemple, en ce qui concerne les fournitures d'armes, d'explosifs, etc. Enfin, toutes les choses horribles qui se passent, il faut essayer d'aider l'Ukraine. Alors, il y a eu... Sur le plan politique, il faut quand même remarquer, tous les médias là en ont parlé parce que c'était tellement exceptionnel. Il faut dire que les 2 et 3 février, il y a eu un sommet Europe-Ukraine qui s'est tenu
sur place à Kiev,
en pleine guerre, sur le territoire ukrainien. Donc il y a eu le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a été, accompagné de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et d'une quinzaine de commissaires européens. Donc il a fallu organiser tout un convoi spécial en cachette pour que ça ne soit pas su des Russes, sauf quand, une fois qu'ils étaient sur place. Donc il y a, en pleine guerre, jamais on a vu une chose pareille. Et là, il y a eu des déclarations, évidemment,
pro-ukrainienne
pour dire on est là pour vous aider. Et puis les Ukrainiens de leur côté ont dit nous on veut rejoindre le plus vite possible l'Union européenne. Parce qu'évidemment pour eux c'est une garantie pour leur futur. S'ils font partie de l'Union européenne, ils ont d'abord la garantie comme avec l'OTAN qu'on va intervenir pour les aider. On le fait déjà sans attendre. Mais les discussions ont été très... courtoise et ouverte en ce qui concerne leur propre adhésion, eux, ils disent « on veut adhérer dans les 2 ans ». C'est strictement impossible sur le plan technique parce qu'il y a toute une série de choses à mettre en place, notamment sur le plan des valeurs fondamentales de l'Union européenne en matière de droits, de liberté, des médias, etc.
Quand on voit de toute façon la politique russe, je crois que là, tout saute, enfin, toutes ces valeurs
toutes ces valeurs sautent de toute façon, mais aussi il y a tout un passé ukrainien qu'il faut effacer pour reconstruire. Alors, avec le gouvernement actuel de M. Zelensky, beaucoup de choses ont été faites, y compris dans son propre gouvernement. Il a éliminé des gens récemment encore qui étaient avec des manières de gérer les choses à la manière des oligarques russes.
Et donc, oui, en s'emplissant les poches et en confondant...
Donc il y a toute une série. Ensuite, il y a les normes économiques, etc. Donc il y a tout un travail et normalement, ça prend une dizaine d'années. Et puis parallèlement, il y a... Donc ils ont reçu, c'était en juin dernier, le statut officiel de candidat. En tout cas, il y a 3 pays actuellement sous menace russe qui ont demandé leur intégration à l'Union européenne. Mais parallèlement, il y a tous les pays des Balkans aussi qui sont, et là il y a aussi des tas de problèmes, qui ne sont pas non plus toujours faciles à gérer, entre la Serbie, le Monténégro, etc.
Bon. Le Kosovo, donc, notamment, Kosovo-Serbie.
Tout cela fait que tous ces pays veulent aussi rejoindre l'Europe, ce qui n'est pas non plus évident, parce que là aussi, il y a beaucoup à rattraper par rapport au passé.
Des pays qui sont ennemis, le Kosovo
et
la Serbie.
Oui, justement. Donc il faut... Mais c'est une solution. Parce qu'une fois, comme la France et l'Allemagne étaient ennemis en comptant, c'est grâce à l'Europe qu'on a pu se réconcilier et devenir amis assez rapidement. Donc le projet européen est un projet de paix et qui est pour le bénéfice de tous. Ça, il faut toujours le rappeler. Mais à condition que le système démocratique, que la liberté, les droits des citoyens, etc., tout ceci doit être respecté. Donc ce n'est pas évident à organiser tout ça. Donc la réunion à Kiev a porté là-dessus, sous la pression des Ukrainiens, dire « on veut rentrer, on veut rentrer, on veut rentrer ».
Mais ils veulent des armes.
Armes. Donc leur ont dit « on va vous donner les armes ». Parmi les armes, il y a eu les chars qui étaient prévus. Il y a l'aviation maintenant qui est en ligne de mire. Quelle sera la suite? On le verra. Mais il est clair que l'Union européenne fait tout son maximum pour les aider militairement, ainsi que en complément de l'aide des USA. Alors, ce conseil exceptionnel, parce que là, c'était un conseil à Kiev, au titre de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Europe.
Oui.
Alors après, jours après, il y a eu le Conseil européen qui s'est tenu en Europe, évidemment, là, le vrai Conseil européen, les 8 et 9
février,
plus 10 février. Et là, surprise, c'est M. Zelensky qui, en retour de ce qui s'était passé à Kiev, est venu. Alors, il a d'abord été à Londres, puis ensuite à Paris, un coup de vent, et puis au Conseil européen où il a participé, comme invité à Bruxelles, et de même au Parlement européen, où il a fait tout un discours qui a été applaudi avec toute l'Assemblée.
Oui, mais qui veut mourir pour Kiev?
Alors, c'est le grand sujet. Donc, tout le monde est prêt à aider l'Ukraine, et en plus... C'est le grand sujet actuel, comme d'ailleurs l'a très bien souligné M. Zelensky, qui se dit « si c'est l'Ukraine, si c'est la Russie qui gagne, c'est l'Europe qui va perdre. Et vous allez être en très grande difficulté parce que ça ne s'arrêtera pas là. Et ensuite, pour diverses raisons. Mais alors on peut toujours discuter de ces questions-là, mais c'est une question de fond. On se retrouve exactement, enfin, si on regarde un peu l'histoire, on sait que l'histoire ne se répète jamais de la même façon, tout à fait. Mais néanmoins, il y a quand même toujours des choses curieuses qui réapparaissent. N'oublions jamais ce qui s'est passé dans le dernier conflit mondial entre la France, l'Allemagne, la Pologne, et comment on n'a pas voulu aussi s'engager trop fort, on a, avec vis-à-vis de l'Autriche, vis-à-vis de la Pologne, on a essayé de négocier quelque chose avec l'Allemagne, et puis finalement, Hitler, comme Poutine, se fichait complètement des signatures de ce qu'il
y avait. Oui, c'est, voilà, leur signature n'est même pas honorée.
Et donc, ce qui s'est passé en 1938, eh bien, c'est peut-être ce qui risque de se passer en 2023. Donc, réfléchissons à ça. Alors, évidemment, il n'y a aucune réponse possible directe, mais l'Europe est en danger, quand même, par rapport à ce qui se passe. Pensons également, justement, les Suédois, les Finlandais, les Estoniens, les Lituaniens,
tous ces pays qui faisaient partie de l'Union soviétique antérieurement.
Il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a une menace. Et M. Poutine, comme M. Hitler autrefois, ben, c'est un peu la répétition de ces vieux réflexes nationalistes et impériaux complètement démentiels qui semblent ahurissants, et pourtant on est confronté à ça. Donc l'Europe, plus que jamais, est nécessaire au niveau d'être renforcée. Donc ce qui s'est passé au Parlement européen avec la représentante de M. Zelensky, ce qui s'est passé au niveau du Conseil européen a réactivé cette union, cette solidarité européenne et l'engagement de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine, mais il y a effectivement jusqu'où cela va aller. Alors parallèlement, et là tout se tient parce qu'il n'y a pas eu que ces sujets-là au niveau européen, au niveau économique, au niveau financier.
Financier et inflation qui...
Donc des mesures ont été prises pour essayer d'aider, et aussi par rapport, malheureusement aussi...
Par rapport à l'énergie.
Par rapport aussi à l'énergie, mais par rapport aussi à nos amis américains, avec lesquels nous sommes liés par des... au niveau commercial, il y a des accords. Et là aussi, la décision qui a été prise au niveau américain, qui va entrer en vigueur au mois d'avril prochain, de favoriser les énergies renouvelables ou toutes les industries américaines qui iront dans le sens de l'écologie, mais ça attire des... parce qu'on va leur donner... Des facilités d'installation sur le territoire américain, et il y a le danger qu'une partie de l'industrie européenne émigre vers les États-Unis pour produire, se délocalise. Abordé.
C'est aussi se délocalise par rapport à la guerre éventuelle.
Éventuellement aussi, mais enfin bon, là on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, parce que bon, on est dans un monde malheureusement où il y a la Chine instable. C'est pas parce qu'on irait en Amérique qu'on serait plus en sécurité ou autrefois. Bon, on va pas faire des parallèles sujet, mais donc il y a sur le plan économique, sur le plan de l'énergie, sur le plan des finances, toute une série de choses qui sont en jeu. Par rapport à cette loi américaine, des décisions ont été prises, mais au niveau du Conseil européen, mais c'est plus qui doivent être approfondis et qui ne donnent pas satisfaction à 100%, donc on va en reparler. Des propositions devraient être complétées au mois de mars. On y reviendra lors d'une prochaine émission de notre émission Bienvenue en Europe, mais tout ceci est en cours. Donc on essaie de faire au mieux, l'Europe essaie de faire au mieux, mais il n'y a pas de décision définitive parce qu'il y a toute une série de choses qui restent ouvertes. En particulier, sur le plan financier, il y avait l'idée de créer un fonds comme a été le plan de relance européen avec un emprunt commun, qui avait été à l'époque de plus de 700 milliards d'euros. Et donc l'idée était de refaire cette même opération au plan européen qui marque la solidarité européenne. Mais là, il y a des difficultés, en particulier l'Allemagne, pour ne pas cacher, est opposée à cette mesure à nouveau, parce que, dit, c'est encore les pays les moins
Les moins industrieux qui donnent
non et puis surtout
qui
profitent de l'argent des autres et qui font pas assez d'efforts sur le plan financier au plan national. Et évidemment là la France est assez visée par rapport à sa dette qui a augmenté considérablement ces derniers temps. Donc il y a des difficultés qui sont à résoudre. On verra, il y a plusieurs fonds européens. Ce qui a été décidé, c'est au moins d'utiliser tous les fonds existants pour venir en aide, pareil, au plus pressé. Donc, sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'économie, sur le plan des finances, tout ceci est en route. On sera obligé d'y revenir quand il y aura des mesures plus spécifiques à souligner. Mais au moins, c'est en bonne voie. Il n'y a pas eu un niet
catégorique
de clash, y compris du côté de la Hongrie, qui était l'un des pays qui était les plus réticents pour un bon nombre de mesures. Il y a donc les choses se sont nécessairement passées correctement, et les contextes internationaux, comme on vient de le souligner, impliquent que si l'Union européenne, ce qui est le vœu de M. Poutine, se disloque, ne reste pas unis, alors là, c'est la faillite générale pour chacun. Donc, plus que jamais, l'union fait la force.
Alors, un des domaines où l'union existe, c'est le domaine de l'agriculture. Et de fait, on a vu, par exemple, les agriculteurs français être très mécontents des dispositions européennes prises contre les pesticides.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dispositions européennes ont été prises. Au départ, il y avait un accord et il y a eu des dispenses qui ont été demandées par l'un ou l'autre pays, et ça a été accordé. Mais la France avait demandé des dispenses, et elle a dépassé la période qui avait été proposée au départ, qui avait été accordée au départ. Évidemment, tout ceci, c'était...
Mais la France a tendance à toujours jouer les mauvais élèves, ça, c'est une maladie.
Alors, évidemment, il y a toute la dimension, les écologistes, on fait pas ici de la politique, mais les courants écologistes, au contraire, eux, ont dit, c'est très bien, et la Cour de justice européenne, elle applique par rapport aux traités, aux décisions, et la législation en place, elle a dit, non, on est obligé de dire que c'est pas légal, donc vous êtes obligé d'arrêter de faire ça. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution, sinon des solutions temporaires, et là, le gouvernement français a réagi immédiatement le lendemain. A été le lendemain, le surlendemain,
très européen.
Et très, très européen, et à dire, donc on n'appliquera pas les mesures, on va les appliquer, mais on va venir en aide immédiatement pour cette année aux producteurs de betteraves. Et donc là, il y a eu les représentants des betteraviers français, et il y en a un grand nombre en Eure-et-Loire, ont été très satisfait de la mesure prise par le gouvernement français qui va pallier les difficultés qui pourraient venir sur le plan financier, y compris en s'appuyant sur un certain nombre de fonds européens qui pourraient venir en aide. Donc l'affaire est réglée pour cette année. Après, on va voir, parce qu'il faut développer des mesures. Il va falloir prendre des mesures spéciales, pas des mesures spéciales, mais découvrir des produits qui peuvent aider à ce que la production de betteraves ne soit pas mise en danger par la jaunisse de la betterave, paraît-il, etc.
Chers auditeurs, nous vous disons au revoir et entre-temps, on vous dit soyez européens convaincus. Bonne semaine à tous, au revoir. You know.
universal.